Plus FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le Forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble. Eh bien, ça y est, c'est reparti pour un nouveau plateau, et pas des moindres, puisque c'est notre première table ronde de la journée, ici à Alpexpo, pour le Forum des métiers de la transition écologique. Donc, une table ronde, discussion conviviale, tranquille, sur la thématique des métiers du bâtiment et les formations en rapport. Nous avons plusieurs invités qui représentent chacun respectivement une structure. On va commencer par faire les présentations, et Greg, je sens que tu as envie de présenter nos invités, non?
Tu m'as lancé.
Ou pas?
Si tu as vu que j'ai trépigné.
Voilà, tout à fait.
Nous sommes avec Jonathan Lachise, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous travaillez à l'ALEC, c'est ça?
À l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grenoble, oui, tout à fait. Ouais.
Exactement, bonjour, bienvenue. Merci. Nous avons Jérôme Doll et Sophie Bouix pour le service bâtiment du Greta. C'est bien ça.
Bonjour.
Tout à fait.
Bonjour à tous les deux. Et nous avons Frédéric Gillet, voilà, pour CAPEB. Donc CAPEB, je rappelle, Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment.
C'est ça. Exactement.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Christophe, t'as vu cette présentation?
Impeccable, j'aurais pas fait mieux.
Merci.
J'aurais juste rajouté que le Greta, donc, c'est structure spécialisée dans les formations.
Oui.
Vas-y.
Oui, effectivement, le Greta, c'est la branche formation continue d'éducation nationale. Voilà, nous occupons le territoire au mieux pour proposer des formations sur le plus grand champ possible. En l'occurrence, nous, aujourd'hui, on représente le bâtiment du Greta de Grenoble, le service bâtiment du Greta de Grenoble.
Alors effectivement, le domaine, hein, le secteur d'activité du bâtiment, ça représente un secteur important en matière d'emploi. Qui a peut-être connu il y a quelque temps une baisse en termes de d'intérêt pour les jeunes. Peut-être qu'il y a un nouveau souffle aujourd'hui. On va voir ça dans quelques minutes. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que chacun puisse présenter un peu plus amplement son entreprise, son association, sa structure, pour rappeler aux auditrices et auditeurs, au niveau du Greta, peut-être que les auditeurs peuvent trouver un intérêt à prendre contact avec vous. Et sinon, pour nos deux autres invités, rappeler quels sont vos champs d'intervention. On commence avec Frédéric.
Très bien.
Et le CAPEB. Alors parlez bien près du micro.
Avancez un peu le micro. C'est lourd, mais...
C'est pas assez lourd, je le tire vers moi.
Le micro.
Donc la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, sa première mission, c'est de défendre et de représenter les petites entreprises du bâtiment auprès des pouvoirs publics. Les artisans sont extrêmement nombreux, puisque 98% des entreprises du bâtiment ont moins de 20 salariés. Ce sont des chiffres très étonnants. 90% au moins de 10 salariés. Alors évidemment, les pouvoirs publics ne s'adressent pas à l'artisan du coin qui a 2 salariés, qui en a 3. Il faut savoir que un tiers des artisans du bâtiment sont seuls. Mais ils sont extrêmement nombreux. C'est ce qu'on appelle, à l'époque, peut-être vous en souvenez, la plus grosse entreprise de France. L'artisanat. On est toujours là. Alors, après la CAPEB, nous avons des services pour accompagner les entreprises du bâtiment. Alors c'est le service juridique, service technique, service développement durable, les services formation, les services qualification, les services emploi, ainsi de suite. Bon, avec nos services, nous sommes capables de répondre à tous les enjeux des entreprises du bâtiment, les petites. Voilà.
Au niveau du forum, là, on vous voit, vous êtes juste en face du plateau radio. Et effectivement, vous proposez un petit atelier. Notamment aux jeunes qui visitent le salon. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur proposez là?
Alors c'est un petit dispositif qu'on appelle les savants fous, où il y a un animateur qui accueille généralement des scolaires, des groupes. pour leur présenter les métiers du bâtiment à travers de petites expériences chimiques, électriques ou de résistance des matériaux. C'est très ludique, c'est très 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 simple et ça fonctionne très très bien. Hier, il y avait un attroupement, je ne sais pas si vous avez vu.
Aussi, il y en avait plein. Toute la matinée d'hier,
voilà.
Ouais, j'y allais.
Voilà. Parce que pour tenir un stand, c'est bien, on peut toujours mettre des kakémonos et quelques flyers, mais animer son stand avec quelque chose d'un peu ludique, c'est quand même beaucoup mieux.
Et ça permet donc de, ensuite de glisser quelques informations aux jeunes.
Bien sûr, d'essayer de les motiver. Si je reviens sur ce que vous avez dit, les difficultés de recrutement n'ont jamais été aussi importantes actuellement.
Ah ben on va y revenir sur ce sujet dans un deuxième temps. Sophie, Jérôme, le Greta, donc vous avez commencé un petit peu à en parler, mais une présentation un peu plus développée pour savoir ce que le public peut trouver en termes de formation.
Oui. Alors, au niveau de notre service, on a la particularité de fonctionner en entrée-sortie permanente. Donc, c'est-à-dire qu'on est un centre qui accueille des stagiaires chaque semaine en formation. On a une offre de formation qui concerne la construction, l'aménagement, la finition, le génie électrique, le génie climatique. Donc, on forme des peintres, des plaquistes, des plombiers, des techniciens du métier du froid, des électriciens, des techniciens en domotique.
Le télécom également.
Le télécom. Donc, une offre de formation qui est assez large. Hein. On a 200 stagiaires par jour sur notre site de formation. Voilà, et on propose des formations donc certifiantes, des titres professionnels donc du ministère de l'Éducation nationale, mais également des modules de découverte des métiers, des modules de perfectionnement, des habilitations. Bon, voilà, une offre assez
large. Donc ça, c'est les formations effectivement qui relèvent de votre service. Le bâtiment, voilà. De manière plus générale, le Greta, c'est combien de formations ? On va peut-être pas toutes les citer, mais
alors voilà. Oui, on a plusieurs.
Ça touche beaucoup de domaines.
Voilà, c'est ça. On a plusieurs services. On forme dans le domaine de l'industrie, du tertiaire, de santé sociale, de l'hôtellerie-restauration, donc de la formation générale, les remises à niveau, etc. Donc une offre assez large. Et on est sur Grenoble et son agglomération, donc on va jusque Saint-Marcelin, on a une antenne à Voiron, voilà. Donc
montagne sécurité lieux, également.
Voilà, on a plusieurs
important
lieux de formation.
Important quand on habite à Grenoble.
C'est ça.
Avec un environnement montagneux. Ouais. Très bien, alors de toute façon, après pour ceux que ça intéresse, hein, allez sur internet.
On peut juste préciser deux choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a divers types de financement, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, ça on le fait, mais on a aussi des marchés qu'on en a rapportés, que ce soit des marchés publics avec la région ou Pôle emploi, mais ça peut être aussi des marchés privés, donc des formations avec, dans lesquelles il n'y a pas d'entreprise identifiée au départ, mais dans lesquelles on a des stages. Donc on a tout type de financement, Frédéric le sait très bien parce qu'on travaille régulièrement ensemble, et aussi on a tout type de public, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant quelqu'un qui est en reconversion, on a parfois des ingénieurs qui viennent faire un CAP parce qu'ils ont envie de changer de métier, changer de vie, changer d'organisation, mais on a aussi une population migrante qui arrive en France et qui a beaucoup envie de travailler, et ça se passe très bien d'ailleurs. On les accompagne, on les forme. On a aussi quand même un accompagnement social par rapport à ces gens-là pour les libérer de stress et d'angoisse qui peuvent parasiter la formation. Et c'est un facteur de réussite. Et puis, on a des jeunes de 18-20 ans, des gens de 25-30 ans. On a vraiment une diversité de public. Il faut que les gens sachent qui nous écoutent que tout le monde peut venir au Greta. La condition pour nous, il y a deux conditions. C'est un, avoir un projet, commencer à construire quelque chose. On débarque pas comme ça du jour au lendemain en disant bah tiens, j'ai vu de la lumière, je vais faire de l'électricité. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont impliqués, parce que quand on rentre en formation et qu'on est 35 heures par semaine en formation, si on n'a pas quelque chose qui nous tient à cœur, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième chose, et là on travaille, on accompagne les gens là-dessus, certains sont prêts, d'autres ne le sont pas, et ça c'est logique, sur le savoir-être, puisque c'est la première demande des entreprises. Arriver à l'heure, respecter les consignes, respecter le matériel. Le niveau d'exigence sur la technique, il a baissé, puisque de toute façon, on va y venir, il y a des difficultés de recrutement.
Voilà, on va effectivement commencer avec cette question-là, mais pas avant d'avoir eu une présentation de l'ALEC avec Jonathan Lachise. Donc ALEC, c'est quoi l'association ?
C'est l'Agence locale de l'énergie et du climat, voilà. Qui initialement était une association, et la particularité à Grenoble, c'est que c'est devenu une société publique locale. C'est-à-dire qu'on est au service de nos actionnaires qui sont la métropole et les collectivités. Et là, on a un peu plusieurs directions. D'ailleurs, on est un peu organisé sous pôle, hein, c'est qu'on accompagne à la fois les collectivités pour mettre en place les plans climat, les politiques en faveur de l'énergie et du climat. On accompagne aussi les entreprises, parce qu'il y a un pôle qui est autour de ça, sur ces questions-là. On accompagne les particuliers. Là, on est structuré sur deux pôles. Un pôle habitat individuel qu'on appelle et un habitat collectif. L'idée, c'est de répondre aux questions et œuvrer justement à l'amélioration, que ce soit pratique ou politique, en faveur de la transition écologique. Moi, personnellement, je suis impliqué dans le pôle habitat individuel en tant que conseiller énergie. C'est-à-dire que j'accompagne les projets de rénovation des maisons individuelles. Voilà, grosso modo, au niveau des aides financières et puis sur les questions pratico-pratiques de qu'est-ce qu'il faut faire sur la maison pour améliorer la performance. Je suis impliqué aussi dans l'espace info-énergie des entreprises qui se posent énormément de questions sur ces aspects-là. Et l'idée, c'est de leur apporter des clés pour qu'ils puissent également participer à la sensibilisation de leurs clients. Je viens aussi avec une autre casquette, c'est que moi je suis également en reconversion, ça fait un an et demi que je suis conseiller énergie. Avant j'étais maçon bâti ancien et j'arrive un peu avec cette expérience-là, à savoir que avant d'être maçon j'étais cuisinier, donc toutes les questions de formation, en tout cas je les ai vécues d'une certaine manière et je continue mon bout de chemin en tant que conseiller énergie aujourd'hui. Donc j'arrive aussi avec... cette expérience à partager.
Voilà, un regard assez complet à la fois de chaque côté un petit peu de la barrière. Merci pour ces présentations. Alors effectivement, pour aborder la question des métiers du bâtiment, donc on l'a déjà évoqué à deux, trois reprises, là, la question du recrutement, est-ce que c'est un secteur qui effectivement a tendance au gré des années à ne plus vraiment intéresser les jeunes, ou est-ce que il y a un petit renouveau quelque part? Je dis ça parce que sur le plateau, notre premier plateau de la journée, Pierre Véry, vice-président de Grenoble Alpes Métropole, nous disait que grâce en fait aux préoccupations environnementales, à l'arrivée peut-être de nouveaux métiers liés aux transitions énergétiques, écologiques, il y a un regain d'intérêt des jeunes vers les métiers du bâtiment, des travaux publics. Alors, est-ce que vous confirmez, que ce soit au niveau de l'artisanat ou des grands groupes, ou est-ce que Pierre Véry se trompe?
Non, je ne crois pas qu'il se trompe. C'est vrai qu'il y a des difficultés... C'est-à-dire l'attractivité des métiers, l'attractivité des entreprises est à travailler. On a un jeune homme là qui a fait un parcours. Les formations à l'éco-construction, à l'éco-rénovation sont complètes. Ça marche très très bien, ça attire énormément de monde. Après, les entreprises doivent aussi, elles, se transformer pour justement pouvoir accompagner la transition énergétique, améliorer la performance énergétique des bâtiments, le confort d'usage, la qualité de l'air. Donc il y a quand même un gros travail à faire de formation, non seulement pour les salariés, les entreprises, et attirer des gens qui puissent avoir, non pas une vision sectorielle métier par métier, mais qui puissent comprendre comment fonctionne la bâtie et comment fonctionnent les interfaces entre les métiers. L'enjeu est là. Ça attire, par contre. Ça attire des gens qui se reconvertissent, des gens qui sont généralement de bon niveau. Et là, ils ont un projet. C'est très difficile maintenant de remplir les sections de CAP de maçonnerie classique. On ne trouve plus personne pour venir faire le maçon, pour mettre trois palettes d'agglos, comme on dit ici, à la journée. Alors, il y a encore des formations comme ça qui fonctionnent, mais on arrive à attirer dans ces métiers-là pratiquement que des réfugiés, si vous voulez. À l'AFPAC, il y a aussi fait partie du réseau, il y a un groupe, ce sont des réfugiés, ils font leur titre de maçon. Mais il n'y a que les réfugiés, il n'y a pas un candidat autre. Par contre, les formations titres ouvriers professionnels en éco-construction, en rénovation du patrimoine, c'est complet, partout. Donc il y a des transformations lourdes actuellement, ce n'est pas des nouveaux métiers, pas vraiment. C'est des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, des nouvelles manières de penser le bâti.
Et est-ce que c'est des nouvelles formations du coup qui ont été mises en place? Je sais pas, pour le Greta peut-être, est-ce que les types de formations ont changé? Vous avez dû adapter aussi au présent peut-être, je sais pas.
Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans la formation proposée?
Oui, alors il faut savoir que les titres professionnels sont rénovés tous les 5 ans et ils prennent en compte justement les besoins de terrain, en fait, les remontées du marché. Et donc les référentiels effectivement évoluent et on voit que les nouvelles technologies sont intégrées. La sensibilisation donc aux biomatériaux, etc. fait partie donc des programmes. Donc il y a une évolution quand même à ce niveau-là. Et c'est vrai que je rejoins Frédéric, ça correspond aussi à ce que recherchent de plus en plus les personnes, parce qu'il y a une conscience écologique, donc ça répond à ce besoin-là, en fait.
Sur des formations nouvelles, en fait, et qui portent sur l'écologie en général, en fait, on a des gens qui viennent parce qu'ils retrouvent des valeurs. Et là, on va trouver plus de monde. Fred le disait, ces formations-là sont complètes. Et même nous, des formations qu'on n'a pas encore mises en place, mais dont on a le projet de mettre en place, on a déjà des gens qui se sont positionnés dessus. Contrairement à des formations plus traditionnelles, où là, le problème de sourcing, il est quand même plus difficile. On a du mal à monter des groupes de 12 personnes sur des formations classiques. Voilà. Donc la notion de valeur dans la génération qui arrive, elle est hyper importante, même chez des gens qui sont en reconversion. Ça attire.
Besoin de valeur, besoin de sens derrière, et ça fait beaucoup plus.
Une précision, il y a des entreprises qui n'ont aucun problème de recrutement. Ouais. Et ces entreprises-là mettent en avant les valeurs.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc elles ont énormément de candidatures libres, spontanées, pardon.
Oui.
Voilà. Donc il y a des entreprises qui ont une attractivité très très forte et attirent les meilleurs.
Ce qui a été clair, en tout cas, c'est qu'au moment de ma reconversion, la recherche, c'était justement d'être en adéquation avec le sens que je mettais dans le métier. Donc ça, on est tous individuellement, mais dans la démarche, moi, c'était de l'ordre du savoir-faire, c'était un rêve d'enfant, et je voulais en quelque sorte un peu suivre le chemin de mon grand-père, qui était maçon également, mais avec des préoccupations plutôt écologiques. Donc très clairement, ça, la notion de sens, elle est hyper importante, et ça fait écho aussi... entre la nuance entre savoir-être et savoir-faire. C'est que sur le tapis, il y a d'autres notions qui sont hors compétences, qui arrivent sur le tapis. Et la notion de savoir-être, c'est l'engagement qu'on met dans le métier, dans la démarche, comment on s'y sent. Et ça, c'est des préoccupations qui sont importantes. Ça permet aussi de faire le parallèle, parce que sur la rénovation en tant que telle, on n'est plus uniquement sur du pur technique, mais on va essayer de chercher le confort. Et ça, sa notion de confort, elle est moins calculable, elle est moins précise. Donc c'est pour ça que les matériaux biosourcés, des nouvelles techniques, des nouvelles approches, parce que c'est lié aux interfaces entre les métiers. Donc, de fait, si on travaille sur le savoir-être et sur le confort, il faut changer un petit peu les programmes de formation, il faut changer de nouvelles pratiques, il faut expérimenter. Mais ça, la base, en tout cas pour mon expérience, c'était l'envie de trouver un savoir-faire qui ait du sens et qui me parle pour l'avenir. Ça, c'est sûr.
Alors, il n'y a pas que les nouvelles technologies, hein, puisque Frédéric, on a assisté à l'Assemblée Générale de la CAPEB, où on a eu une présentation, tu présenteras certainement mieux que moi, mais d'une ancienne technique de construction à zéro émission.
Ah oui. On a même des entreprises ou des charpentiers qui font ça à la hache. Oui, et ça tourne.
Un retour aux méthodes traditionnelles.
Et ça tourne,
en fait.
C'est incroyable. Donc, les grumes arrivent dans l'entreprise et eux, ils taillent tout. À la hache, il n'y a pas de machine. Et finalement, ils s'y retrouvent parce que le coût, du coup, compense. Et on se retrouve avec des clients qui, évidemment, parce qu'il faut savoir que les gens ont changé aussi. Les gens sont de plus en plus informés. Une personne qui voudrait rénover sa maison, souvent on appelle le chauffagiste parce que c'est un vieux chauffage, il faut changer le chauffage. Bon. Alors le chauffagiste va venir et va dire, oui, je vous installe une belle machine. Avec des granulés bois, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas se préoccuper de l'enveloppe. Ça ne fonctionnera pas. Donc, si on n'est pas à cette approche globale dans le cadre de cette rénovation, ça ne fonctionne pas.
Donc, mais un retour... Pardon, je vous ai coupé la parole. Vous
pouvez continuer. C'est aussi aux entreprises de changer de comportement, de changer leur manière de faire. Voilà. Et les entreprises qui ont compris ça ont 2 ans de boulot d'avance. Mais... On n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore un peu de travail. Donc c'est aussi le boulot de la CAPEB. Hein. Des centres de formation, des partenaires, de travailler, d'avancer vers...
La question que je voulais poser, c'est un retour sur des méthodes de travail à l'ancienne dans le bâtiment. Est-ce que ça s'accompagne aussi du coup d'un retour à des conditions de travail un peu plus pénibles? Parce que tailler du bois à la hache plutôt qu'avec une tronçonneuse... Ouais. C'est quand même vachement plus fatigant. Alors c'est quoi, est-ce que ça s'accompagne quand même de conditions de travail adaptées, plus modernes?
Oui, vous savez, dans le
avec
bâtiment,
méthodes anciennes,
ouais, dans le bâtiment, il n'y a plus de manœuvre. Ce sont les machines, ouais, qui font les manœuvres. Alors il y a quelques, on pourrait les prendre pour des uluberlus qui font encore ça à l'âge, mais ils sont très très peu. Mais autrement, les machines sont partout. Hein, on ne porte plus rien, on ne pousse plus les brouettes, quoi, si vous voulez, dans le bâtiment. On a besoin de techniciens, de compagnons professionnels, et non plus de manœuvres. Il n'y en a plus. Les outils de pour alléger la pénibilité sont partout.
C'est ça, c'est-à-dire que les méthodes traditionnelles, je vois dans la CAP Taille de Pierre qu'on propose, ils sont sur ils travaillent avec les méthodes ancestrales, etc. Mais, donc le travail de la matière, ce qui est noble en fin de compte, ça, ils le font de manière traditionnelle, etc. Mais par contre, effectivement, toutes les techniques autour qui vont permettre éventuellement de mettre en place donc, les différentes pierres, etc., ça, là, ils sont outillés. Donc là, on gagne en... Finalement, on garde le plaisir de travailler la matière, mais sans la pénibilité associée à la logistique qui va être autour.
Voilà, parce que sinon,
les charpentiers, oui, se mettent à reprendre les haches, mais il y a également les maçons qui se mettent à travailler avec la pierre ou avec la terre. Et ayant travaillé dans une entreprise spécialisée sur le pisé revient à la mode et se développe. Et là, très clairement, on a cette nuance entre machine ou savoir-faire à la main. Dans notre cas, dans notre entreprise, on préférait embaucher 10 personnes pour faire du pisé traditionnel plutôt que de louer des machines pour pouvoir le faire de manière mécanique. C'est un jeu de compromis. Mais c'est vrai que la pénibilité, certes, qui est présente, elle est largement compensée par le fait de faire un chantier à 10. Ça, l'énergie collective qu'il y a derrière un chantier traditionnel en pisé est hyper impressionnant et crée un déclic, en tout cas. Moi, à titre personnel, c'est clairement ça qui a créé un déclic dans le métier du bâtiment.
En termes d'entreprise, les recruteurs, ceux qui emploient, il y a donc des petites entreprises du bâtiment, les artisans, et puis des gros groupes, des grosses boîtes de BTP. Frédéric, vous nous disiez que le secteur des artisans en bâtiment est toujours aussi... important et plein de vitalité, donc ça veut dire que cette espèce de les gros poissons qui ont mangé les petits, ça s'est pas vérifié dans le domaine du BTP.
Alors je crois que même les grosses entreprises ont des difficultés de recrutement, c'est partout.
Est-ce qu'ils n'ont pas mené des petites entreprises à la faillite au niveau en termes de marché?
Non, parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés du tout.
D'accord.
Regardez ici, on est dans un énorme bâtiment, c'est pas un artisan qui va faire ça. Bouygues ne va pas aller faire de l'éco-rénovation chez un particulier qui a besoin de transformer sa maison. On est vraiment sur des marchés différents. L'artisanat est essentiellement sur la rénovation. Ah, bien sûr sur le neuf, mais essentiellement sur la rénovation. Et ce sont des spécialistes de la performance énergétique. Ils sont capables, a priori, de pouvoir accompagner les particuliers ou les petits tertiaires sur leurs travaux, que ce soit du neuf ou que ce soit de la rénovation. On n'est pas vraiment sur les mêmes champs. Hein.
D'accord.
On n'est pas sur les immeubles.
Près du micro, on vous entend moins.
On n'est pas sur les immeubles.
Ok, effectivement. Donc là, on ne se marche pas sur les plates-bandes.
Ah non, on ne se marche pas sur les pièces. Niveau. Voilà, non.
Il y a des chantiers énormes sur Grenoble en ce moment. ST2, à Champagny, HRS qui se développe. Il me semble aussi que
Murmure avec la rénovation des façades, hein, actuellement, qui est un gros enjeu pour la ville et pour la métro, et dans lequel on est impliqué nous aussi au niveau du Greta pour la mise en place de formations en pose d'ITE, isolation thermique par l'extérieur, donc pour rénover les façades.
Et en fait, ces grands groupes-là, ils ont déjà du mal à assumer avec leurs équipes.
Ouais,
et nous, on le sait parce qu'en fait, on forme des aides électriciens, des tout type d'aides pour leur venir en aide. Et c'est ces groupes-là que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a parfois du mal à remplir. Et donc, les artisans à côté, ils ont, comme disait Fred, ils ont tout leur travail de rénovation sur des petits chantiers sur lesquels les grosses boîtes n'ont pas envie d'aller parce qu'il n'y aura pas de marge pour elles.
Non. Et puis, chez un artisan, il n'y aura pas d'aide électricien. Il y aura des électriciens, des techniciens. J'ai un artisan. La moyenne des salariés dans l'artisanat, c'est à peine 3 salariés. C'est tout petit. On n'a pas besoin de tireurs de câbles, quoi, si vous voulez. Il faut vraiment des techniciens de bon niveau.
Donc il y a de la place pour tout le monde, pour tous les, toutes les entreprises.
Pour tous les, bien sûr.
En tout cas, je confirme que les difficultés de recrutement, elles sont présentes à la fois dans les grands groupes que dans les petits. C'est systémique, en fait. Et après, ils ne se marchent pas non plus sur les pieds du tout. Et c'est très visible sur les rénovations des immeubles par rapport à Murmure Copro. Mais ce n'est pas du tout le même marché par rapport aux entreprises qui participent à Murmure Maison Individuelle. Ça, c'est assez clair. Parce qu'ils n'ont pas le même outil, ils n'ont pas le même... la même dimension. Effectivement, ils ne peuvent pas réagir de la même manière pour construire un Alpexpo. Ils ne sont pas équipés. Ce serait même dangereux pour la petite entreprise. Il ne faudrait pas y aller seul. Mais en tout cas, il y a la question qui se pose de deux côtés, à se développer ou pas. À l'échelle de la petite entreprise, aujourd'hui, si elle continue à massifier, parce que c'est un peu ça le sujet et le contexte aujourd'hui, c'est qu'il faut en faire plus. C'est pour ça qu'il y aura plus de métiers, plus d'embauches, plus de recrutement. L'autre question que les petites entreprises se doivent poser, c'est est-ce qu'on pourrait passer de 3 à 6 et ces mouvements-là, ils ne sont pas anodins à l'échelle d'une petite entreprise. Ça, c'est un petit plus, à mon avis, qu'aujourd'hui, les grands groupes, pour le coup, ils sont déjà bien huilés, donc la question se pose différemment. Mais je pense qu'il y a, il y a un enjeu différent, c'est que les entreprises, aujourd'hui, doivent se poser la question de soit aller plus loin dans le recrutement, grossir légèrement, sans trop se mettre en danger. Et là, il y a des effets de retenue un petit peu. Enfin, c'est un peu ce qu'on ressent en tant que conseiller énergie quand il nous appelle, c'est que c'est difficile de se projeter aujourd'hui dans le bâtiment. Et l'artisan qui est seul ne saura pas forcément où il sera dans 2 ans. C'est ça qui est difficile aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un message à donner. Et là, je donne raison à Pierre Véry, c'est que rassurez-vous, ça va bien se passer. On va le faire, ce ne sera pas simple. Mais il y a quelque chose à jouer là-dessus, on va y aller ensemble.
Sur les grands groupes, quand même, il faut quand même dire qu'il y a quand même un travail d'éducation à faire sur les tuteurs terrain, ces techniciens qui ont la pression du chantier, il faut qu'ils rentrent à l'heure, etc. Et dans lequel on leur envoie des gens qui sortent de formation et qui ne sont pas encore opérationnels, quelle que soit la qualité de la formation, en fait. Et il y a un travail à faire sur, attention, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, mais il va y avoir quand même un peu de temps à investir pour l'accompagner. Parce que ça, cette difficulté, elle existe aussi. Il y a une différence entre le niveau RH ou direction qui a conscience de ça et le technicien terrain qui, lui, en a conscience ou pas, mais en tout cas, lui, il a la pression du chantier.
Il a l'urgence de son terrain.
Et parfois, il n'arrive pas à gérer les deux.
On va faire une petite pause musicale. On est à mi-chemin dans notre table ronde sur la thématique des métiers du bâtiment et les formations. Donc une petite pause et puis on se retrouve ensuite peut-être pour parler un peu plus de... J'ai perdu un peu le fil de mes idées. Oui, les profils recherchés, puisqu'on est ici au cœur de ce forum des métiers, il y a du public qui passe, notamment des jeunes, pour voir un petit peu le genre d'offres qu'ils peuvent trouver, et ben voilà, qu'on sache effectivement s'il y a des profils plus que d'autres qui sont recherchés actuellement dans les métiers du bâtiment. Allez, à tout de suite.
News FM, l'esprit hip-hop de Grenoble.
Hey, Russian! Gira al contrario la lanciata sul mio IP, mentre fischi alle gomme dell'SRT. Tu mi vuoi morto, sono really rich. Sono passati gli anni, siamo ancora qui. Non mi parlare di strada, nah. Un chilo alla mia collana, damn. 200 all'ora sul radar. Vroom, vroom. Mentre lei mi aspetta a casa, in tasca non c'era nada. Adesso sai che fare un milione è easy, farla sfogliare easy. Mi chiami, sono busy, non ti rispondo easy, no. Sarà più rush on wee wee, fare sta roba è easy. Lavando a farsi un lifting, sparisco come Houdini, ah. Ehi mambo italiano, oh no no. Parli e non ci conosciamo, so che tu vuoi fare l'americano. Damn. Oro giallo, oro bianco, oro rosa, orologi due ton. Ora mi ami ma so che tra un mese mi odi. Non parlarmi nemmeno se non per i soldi. Siamo passati da vendere il fumo a visualizzazioni. Contratti grossi come calciatori. Ho tipo scarpe di tutti i colori. Ehi, l'ho fatto ancora easy. In giro stanno parlando di me. C'è la mia faccia in TV. Ho fatto tutti sti soldi col rap. Lei che richiama ora. Vuole una borsa nuova. Mangerà il bossa nova. Ora. Gira al contrario la lanciata sul mio IP. Mentre fischi alle gomme dell'SRT. Tu mi
mi vuoi morto, sono really rich. Sono passati gli anni, siamo ancora qui.
Non mi parlare di strada, nah. Un chilo alla mia collana, damn. 200 all'ora sul radar, vroom vroom. Mentre lei mi aspetta a casa, in tasca non c'era nada. Adesso sai che fare un milione è easy, farla sfogliare easy. Mi chiami, sono busy, non ti rispondo easy, no. Sera più rush on wee, fare sta roba è easy. Lavando a farsi un lifting, sparisco come un diello.
Open love, the body a demon, you know he be feeling it. After the joy, he don't show no emotion. My ass to the street and I know what they told him. I got this flag and they know I was loking. Bitches is bad and I'm body and both. I said I would do it, they thought I was joking. I ain't wrestling no one, I ain't Hollywood Hogan. You better know where you going. I can't have this kid in his body is over. I smell like a virus, but I ain't corona. I walk with my son and my gun in the stroller. I'll probably shoot if you come any closer. I'll probably shoot if you talk to me vocal. What you talking about, huh? Watch your mouth, look, see me and reroute. The bullets feel like out, like fuck you talking about, huh? Watch your mouth, they see me and reroute. The bullets feel like out, bow.
Non mi parlare di strada, nah. Un chilo alla mia collana, damn. 200 all'ora sul radar, vroom vroom. Mentre lei mi aspetta a casa, in tasca non c'era nada. Adesso sai che fare un milione è easy, farla sfogliare easy. Mi chiami, sono busy, non ti rispondo easy, no. Sera più rush on wee, fare sta roba è easy. Lavando a farsi un lifting, sparisco come Houdini, ah.
De retour, toujours en direct de l'Alpexpo pour le forum des métiers de la transition écologique. Vous le savez, depuis hier, News FM a installé ses micros et vous fait profiter un petit peu des nombreuses rencontres que l'on peut faire ici au niveau des intervenants, des exposants. Deuxième partie de notre table ronde qui porte sur les métiers du bâtiment et les formations en rapport. Nous avons toujours avec nous nos invités, Jonathan Lachiz de l'ALEC, nous avons Sophie Bouix et Jérôme Doll du Greta, service bâtiment, BTP du Greta, et puis Frédéric Gillet pour le CAPEB. On va donc enchaîner avec, comme je le disais avant la pause, alors, on va évoquer un peu les profils. Donc les métiers, les recruteurs en tout cas, se plaignent d'une pénurie de candidats. Alors tout d'abord, quels sont les profils les plus recherchés?
Tous.
Oui.
Tous les profils. Bon ben voilà, on passe à la question suivante.
En tout cas, tous les métiers du bâtiment sont concernés.
Oui, par contre...
Et particulièrement, je dirais, le gros œuvre, en fin de compte, dans le secteur du gros œuvre, donc les maçons, les façadiers, sont particulièrement recherchés, mais l'enveloppe. Globalement, un peu de partout. Mais l'enveloppe, oui, c'est ça.
Le métier de l'enveloppe.
Ouais. En revanche, si la question, elle porte sur le profil...
Voilà, j'allais préciser un peu plus le profil des candidats. Est-ce que les recruteurs recherchent des jeunes qu'ils vont former, ou plutôt des gens qui sont déjà du métier, qui ont une expérience?
Alors, ce qui est très apprécié, en fait, c'est les reconversions. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà une expérience quelque part, qui ont ce savoir-être et qui ont ils ont un projet. Et en fait, ils cochent un peu toutes les cases, ces gens-là. Alors, ils vont pas suffire à couvrir tous les besoins de recrutement, mais par contre, ce sont des profils appréciés.
Ce qu'on entend souvent, c'est ça, en fin de compte, de la part des employeurs, c'est la motivation et le savoir-être. Et on leur apprendra après sur le tas comment fonctionner, voilà, mes motivations et savoir-être. Ouais. C'est les profils, c'est
mais
ça.
Mais
il faut
qu'ils trouvent aussi, eux, un savoir
faire.
Non, mais dans l'entreprise aussi, un cadre de travail qui est. Qui est quand même respectable. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Ok, on leur dit qu'il faut savoir-être, le savoir-faire, les expériences. Et si après, tu arrives dans l'entreprise et que, bon. Ça te traite un peu comme un... voilà.
Ah oui, tout à fait. Ah bah oui.
Ça marche pas, quoi, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc dans les deux sens, entre parler, là on parle vraiment du profil type recherché, donc la motivation, le savoir-être, mais en face, est-ce que le contrat, il est rempli aussi dans le...
Bah là, hier, par exemple, je vous ai évoqué les entreprises HRS qui fabriquent des stations de pour l'hydrogène.
Ouais.
Vous avez en invité hier sur un plateau.
Voilà. Et bien, en fait, je suis allé dans cette entreprise pour une raison parfois. Je cherche des jurys. D'ailleurs, je lance un appel aux professionnels qui souhaitent venir participer à nos fins de session. Je suis allé dans cette entreprise parce qu'en fait, j'avais un ancien stagiaire de une des premières promotions qu'on avait mis en place sur un titre professionnel électricien de niveau 4, donc de niveau bac. qui est rentré en tant que monteur câbleur d'armoire électrique. Et aujourd'hui, en fait, il est passé il y a quelques mois, il est en bureau d'études. Donc pour répondre à la question, oui, effectivement, pour garder les gens, il faut leur offrir des conditions de travail qui soient respectables et en plus des perspectives d'évolution. Parce que cette personne-là, je rebondis du coup, elle était dans l'hôtellerie-restauration. Et le cadre dans l'hôtellerie-restauration, vous l'avez, hein, sinon ça ne marche pas. Et ben, sa compétence de ce savoir-être a été transférée dans le domaine du bâtiment. Il a appris avec nous un certain nombre de choses. Il a continué à se former dans l'entreprise. Et en plus, bah, HRS, qui se développe de manière hyper importante, bah, elle fait aussi évoluer les gens de l'intérieur. En tout cas, moi, on a un exemple sous les yeux. Cette personne-là est aujourd'hui en bureau d'études.
Les artisans du BTP, Frédéric, est-ce que eux, par contre, ils cherchent davantage des jeunes à former et à transmettre leur savoir-faire, leur art du métier, hein, parce que c'est quand même la base de l'artisanat. Ce sont des artistes.
Oui, des artisans, oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils font avec la main. On cherche toujours du potentiel, des capacités, des aptitudes. Ça, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de taille, ça n'a pas de couleur. C'est fondamental. Moi, je travaille là-dessus sur les entreprises. On ne recrute pas un contrat. On recrute du potentiel, des capacités, des aptitudes. Que ce soit un jeune, que ce soit un ancien, que ce soit quelqu'un en reconversion ou pas. Mais ça ne fonctionne que si l'entreprise sait où elle va. Si l'entreprise ne se met pas en perspective, Jérôme vient de le dire, les gens qui ont un peu de talent, ils vont se former et puis partir. Donc on se retrouve avec des véritables difficultés de fidélisation des salariés. Et là, les entreprises, c'est à elles, pour suivre ce que vous aviez dit, c'est à elles de changer leur comportement pour avoir des fonctions d'accueil et d'insertion dans les entreprises et à pouvoir mettre en place des possibilités d'évolution par rapport à une perspective d'entreprise. Ça, c'est fondamental si on veut garder les... et se développer. Comme vous dites tout à l'heure, est-ce que l'artisan doit rester seul ou avoir qu'un salarié ou à trois? Les études qui avaient été faites il y a déjà pas mal de temps, c'était artisan 2025. Il y a eu un rapport qui était pas mal. C'était, en gros, je résume, artisan tout seul ou 15 salariés avec une entreprise extrêmement structurée, avec un projet d'entreprise et de l'encadrement intermédiaire. Entre les deux, c'est difficile. C'est là où c'est très difficile de recruter et de fidéliser. L'artisan n'est pas forcément toujours conscient de son projet. Il avance au fur et à mesure où ça vient, quoi.
Ouais.
Et là, c'est difficile.
Il est dans le flux tendu.
Là, c'est difficile.
Il n'y a peut-être pas la place pour après, se remettre en question ou machin.
C'est difficile.
Par contre, garder les salariés.
C'est une problématique qui existe en dehors du secteur du bâtiment.
Oui.
C'était le cas en cuisine quand j'étais dans l'entreprise. Le turnover des 2 ans, il est difficile à sauter. Et ça, c'est présent chez toutes les petites entreprises que j'ai rencontrées. Et qui est lié, oui, effectivement, je le partage, à cette vision à long terme, mais des perspectives de l'entreprise. Derrière, pour le salarié, c'est quel est le parcours d'évolution qu'on peut avoir en interne. Ça, c'est des questions. En tout cas, pour les profils, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se les pose beaucoup plus fort. Où je serai demain? Et ça devient beaucoup plus important dans un parcours de métier. Et ça, les entreprises, il y a quelque chose, il me semble, et ils doivent évoluer ou jouer, changer de braquet, en tout cas prendre à bras le corps cette notion-là, en tout cas.
Et puis, avec un équilibre indispensable maintenant, comment on attire plus les gens? Entre qualité de vie personnelle et qualité de vie au travail. S'il n'y a plus cet équilibre-là, en plus, trouver du sens dans son travail, on ne garde pas les gens et on ne les attire pas non plus. Donc il y a un véritable travail énorme à faire pour avoir des parcours comme le tien à l'ALEC. Tu viens de la cuisine, maintenant tu fais du conseil. Voilà, ce sont des vrais parcours. Ou celui que Jérôme vient de... on en a beaucoup. Moi, j'ai une professeure de philo qui est maçonne.
Alors justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Fred, c'est que pour nous, ça fait partie des choses assez importantes dans les profils. Je le dis à titre personnel, mais aussi parce que c'est quelque chose d'assez important pour notre structure et pour notre service, c'est que les métiers du bâtiment ne sont pas réservés qu'aux hommes, quoi. Donc effectivement, on a besoin de carreleuses, on a besoin de plombières, on a besoin de charpentières, enfin voilà. Donc et ça, c'est quand même important de le dire, d'autant plus, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, que effectivement le bâtiment il n'est pas aussi pénible qu'avant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui permettent aussi de soulager la logistique associée, etc.
Et la sécurité.
Voilà. Et la sécurité. Ouais.
Donc le vieil argument de dire les femmes n'arrivent pas à porter des poids aussi lourds que les hommes,
tout à fait.
Ça vaut plus rien. Alors,
c'est ça. Donc déjà que c'était pas un argument que je cautionne, mais en plus, il est d'autant plus faux qu'on avance effectivement au niveau des technologies périphériques au métier. Donc ça, c'est important et c'est important de se le dire. Quoi.
Au-delà du poids, il y a quand même beaucoup de techniques dans le bâtiment. Ouais. Là, on n'a pas besoin de muscles, on a besoin d'un cerveau et je crois que les femmes en ont un aussi important que les hommes.
Oui, parce que l'intelligence de la main ne fonctionne pas seule.
C'est ça, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'analyse.
C'est vrai que vous avez raison, Jérôme, de rappeler que quand on parle des métiers du bâtiment, la preuve, c'est que moi-même, j'ai fait un peu cette erreur de penser tout de suite aux métiers manuels, alors qu'en fait, il y a aussi des métiers de chef de chantier.
Mais en électricité, etc. par exemple, la technicité est extrêmement importante, avec la notion de sécurité, évidemment. Et moi, mes formateurs appellent... tous les jours, mais quand est-ce que Jérôme, il y aura des femmes dans notre atelier?
Alors que tout ce qui est bois, toit, charpente,
oui.
menuiserie,
c'est plus traditionnel.
Il y a plein de femmes.
On a des femmes, beaucoup de femmes en menuisière, de femmes menuisières, des femmes charpentières, on en a, bien sûr, en formation.
J'ai une petite entreprise, sa première embauche était une femme, charpentière. D'accord. Parce que souvent on dit, c'est mesurable, je ne sais plus quel est le pourcentage des femmes dans le bâtiment, mais une fois qu'on a enlevé les services administratifs, il y en a déjà beaucoup moins. Et puis, pour les gens, c'était la peinture. Les femmes, elles sont bien, sont bonnes en peinture, la décoration, c'est bien pour les femmes. C'est fini. Il y a de plus en plus de femmes dans le gros œuvre.
C'est ça.
Donc, maçonnerie, charpente.
C'est ça. Couverture. Et puis, il serait temps en 2022 de effectivement sortir des clichés par rapport à ça.
Et les entreprises sont très contentes et ça fonctionne.
C'est long, c'est long.
Pour abattre les clichés.
C'est long parce que les clichés viennent parfois même, sont ancrés chez les personnes aussi. Donc non, jamais je vais m'intéresser à ça. Et ça découle de plein de choses. Quoi.
Les métiers du bâtiment participent quand même à la construction de notre société. On construit, c'est ce qui construit notre société, c'est ce qui permet d'accueillir nos administrations, d'accueillir des individus, Et donc c'est important en fait que les femmes puissent participer à cette construction là en fait et se disent que il est normal qu'elles participent à cette construction là en fait et qu'on l'intègre.
Donc on va les retrouver dans tous les métiers d'éco-construction. On revient sur ce thème-là, l'éco-construction, l'éco-rénovation.
Mais elles sont très présentes d'ailleurs dans les formations qu'on citait tout à l'heure. Comme je suis passé par là, c'est le milieu dans lequel, en tout cas pour moi c'est une évidence, j'ai toujours eu des collègues féminines sur les chantiers depuis le départ. Donc je suis surpris aujourd'hui que c'est encore problématique.
Tout à fait.
Pour le coup, c'est vrai que pour moi c'est ancré.
Mais pas dans tous les métiers.
On nous dit souvent que le problème de préjugés sur l'accès au métier, les femmes elles-mêmes sont les premières à se censurer.
Alors
que les recruteurs sont déjà prêts à les accueillir. Donc
c'est une partie
aussi,
en tout cas.
Là, ça bondit fort. Je crois que les entreprises ont compris que s'ils pouvaient avoir une femme qui a le potentiel, les capacités, les aptitudes dont je parlais tout à l'heure, ils vont les prendre. Ce sont très rares ceux qui vont dire non, pas de femme chez moi. C'est vraiment très rare. Je crois que maintenant ils ont compris.
Oui,
tant mieux.
Donc l'intérêt des forums comme celui d'aujourd'hui à l'Alpexpo, c'est aussi au public féminin. De pouvoir partager, échanger et comprendre que qu'elles peuvent faire le boulot, le job.
Et qu'on a besoin d'elles en fait. On a besoin d'elles, on a besoin de leur regard, on a besoin de leurs compétences.
On vous invite d'ailleurs à aller sur le site du Greta de Grenoble où on a fait une vidéo.
Il y a plusieurs témoignages de femmes qui réalisent des gestes professionnels et pour montrer aussi que c'est normal, c'est possible, effectivement.
La notion de potentiel, elle est clé. Je suis assez d'accord tout à l'heure. Il n'y a plus de frein. On s'adapte. Et tant qu'il y a du potentiel, on va toujours trouver une solution. Et dans les profils, c'est pareil. Dans les métiers, c'est pareil. C'est le même cas pour moi en tant qu'exemple. J'ai une formation de maçon. Je me suis retrouvé conseiller qui est un petit peu en décalage par rapport au recrutement classique. Des ALEC ou des espaces info-énergie, mais il n'y a plus de frontières du tout. Parce que les métiers qu'on parle de transition écologique veulent forcément dire qu'on va travailler sur la transversalité. Donc toutes les compétences, tous les profils peuvent jouer dans la partie. Il faut juste avoir envie de jouer. C'est ça la notion de potentiel que j'entends moi derrière.
J'avais une question pour vous, Frédéric, pour revenir encore sur les artisans du BTP. Est-ce que la question de la transmission de sa petite entreprise est une préoccupation chez les artisans? Parce que dans les grands groupes, il y a des chefs de service, il y a des directeurs, etc. Alors que là, chez les petits entrepreneurs, Il y a souvent cette envie que l'entreprise continue par-delà la vie de celui qui l'a créé.
Oui, mais beaucoup arrêtent faute de repreneurs. On n'a pas toujours un enfant dans l'entreprise qui reprend l'entreprise de papa-maman.
Donc ça veut dire théoriquement le nombre de petites entreprises devrait diminuer au fil des
années. Non, parce qu'énormément s'installent.
Ah voilà, il y a autant de créations que
disparitions. Oui, il y a beaucoup de créations, notamment en auto-entrepreneur, en micro-entreprise, mais il y a beaucoup d'installations.
Ça, effectivement, dans les stagiaires que l'on recrute, je dirais qu'entre un tiers et la moitié des gens veulent se former pour se mettre à leur compte.
Pour être son propre patron.
On parlait de génération, là, d'envie, de valeur, ça c'est une vraie valeur.
Voilà, donc c'est... Alors, quelquefois, il y a un salarié qui veut bien reprendre l'entreprise, mais là, ça se prépare. On a vu des catastrophes où même les enfants reprenaient l'entreprise de papa-maman qui la coule. Hein. Parce que c'est très difficile de comprendre qu'il y a des niveaux de compétences cachés dans la tête du papa-maman qui gère l'entreprise depuis 20 ou 30 ans. C'est pas parce qu'on est né dedans qu'on a des compétences de gestion, de pilotage d'une entreprise. Souvent, on a des compétences techniques, mais des compétences commerciales, de gestion, administrative.
Managériale aussi.
Managériale, d'organisation. C'est beaucoup plus complexe que la technique. Donc beaucoup d'entreprises arrêtent, tout simplement, arrêtent.
Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, au niveau du Greta, vous constatez effectivement beaucoup de personnes qui souhaitent se former pour être son propre patron, auto-entrepreneur. Est-ce que, au niveau de la mentalité, est-ce que les personnes ont toute conscience que ça va être quand même quelque chose de lourd ? Parce que quand on monte son business, son affaire, son entreprise, on vit avec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'ils ont tous, alors que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, je ne sais pas quelle est la tranche d'âge la plus représentative de ceux qui veulent se lancer seuls ?
C'est plutôt des gens en reconversion. Qui
donc ont déjà un âge
Après, des adultes confirmés. Quel niveau de conscience ils ont, ça dépend des profils. En revanche, nous, ce qu'on leur conseille fortement, c'est de faire 1, 2, 3 ans de salariat, d'intérim, pour vraiment connaître le métier.
Et non pas se lancer tout de suite.
Et avant de se lancer, parce que en fait, la difficulté. Nous, on a des formateurs qui sont en fait des anciens artisans. Donc, ils ont quand même la connaissance de la vie de l'entreprise. Et ce qu'on leur dit, c'est attention, ok, la technique, c'est bien, mais. Le plus difficile, qui quelque part, c'est l'administratif, et c'est faire un devis. Si vous faites un devis, vous dites à votre client, je vais en avoir pour 2 semaines, vous faites un chiffre. Mais en réalité, si vous en avez pour 3 semaines, vous vous coulez tout seul, en fait, parce que vous avez fait un devis, un mauvais devis. Donc,
calculer son prix de revient, ça s'invente pas comme ça. Voilà. Alors, on a des formations, bien entendu, à CAPEB pour ça. On a une très grosse formation qu'on appelle le Réhab. C'est responsable d'entreprise artisanale du bâtiment. Ça dure un an et demi, hein. Quelques jours par mois pour apprendre à piloter son entreprise.
Après, entreprendre, forcément, il y a tout un tas de nouvelles compétences qui vont derrière, qui vont au-delà du métier en tant que tel. Et ça oui, il y a un réseau, il y a quand même énormément de choses qui existent pour les acquérir. Mais pourquoi il y a une retenue ? Je pense que ça revient à ce qu'on disait au départ sur le sens à mettre dans le métier. Détenir son outil de travail est aujourd'hui quelque chose qui est parlant. Et ayant commencé ma première activité professionnelle, j'étais cuisinier dans une coopérative. Donc j'ai appris à travailler en étant propriétaire de mon outil de travail. Cette culture-là, à tous les niveaux, j'ai l'impression qu'elle se partage. Et ça c'est séduisant, il me semble, pour les parcours en reconversion. C'est être propriétaire de son outil. Mm-hmm. Il y a une notion de cet outil-là. Mm-hmm. Par contre, il y a quelque chose quand même il y a quand même un enjeu important, c'est former aussi les coordinateurs de chantier. Ça, tout à l'heure, on disait que passer la main à quelqu'un qui va reprendre l'entreprise, ça se prépare. Mais c'est la même chose au quotidien, c'est former les personnes à la montée de compétences. Mmh. Et ces métiers-là, il me semble, encore aujourd'hui, sont pas assez clarifiés dans le parcours des entreprises parce qu'en fait, l'artisan fait tout. Il fait à la fois la RH, il fait avoir le commercial, il fait à la fois l'approvisionnement, la formation des nouveaux entrants. Et ça, ces compétences ne sont pas assez structurées, à mon sens, dans les petites boîtes, parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est vrai.
Tout à fait, ouais.
Mais c'est une notion qui est clé. Et je pense que dans le parcours des... En tout cas, c'est des questions que je me suis posées à titre personnel. C'est clair qu'en me projetant à 5 ans, je me suis dit, est-ce que je continue ou pas ? J'ai changé de braquet par rapport à mon parcours professionnel. Passer coordinateur de chantier en ayant des responsabilités, sans dire qu'on arrive à un grand groupe, hein, mais être responsable d'un chantier du début à la fin en coordonnant, en formant les stagiaires comme j'avais pu être accompagné à l'époque, mais que ce soit vraiment structuré dans l'entreprise, ça ce serait la clé. Et ce serait d'une certaine manière la préparation à passer la main quand on rentre en retraite.
Tout à fait d'accord. Il y a l'Observatoire du bâtiment qui a travaillé sur les mutations actuelles. On a fait une conférence hier là-dessus. Un des plus gros problèmes, c'est ça. C'est le passage de compagnon professionnel. Un compagnon professionnel, c'est un ouvrier autonome, un responsable de chantier. Généralement, ça se fait sur le tas. C'est le plus ancien, le meilleur technicien. Ce n'est pas forcément le meilleur organisateur et le meilleur manager. Il va falloir qu'on apporte des formations complémentaires de responsables de chantier pour faire monter le niveau de compétence. Alors, coordinateur de chantier, chef d'équipe, chef de chantier. Moi, j'aime bien dire responsable de chantier. Là, il y a un véritable manque. Et en plus, les outils numériques sont de plus en plus pointus, même dans les petites entreprises. Et là, il va falloir vraiment monter en compétence sur les outils numériques. Alors, sans parler du BIM, une entreprise qui a 6 salariés, le BIM, ça n'a pas d'intérêt. Mais ils sont quand même tous en 3D, en 2D, avec des outils. Et il va falloir, chez des entreprises où chaque ouvrier a sa tablette ou son téléphone de chantier avec les plans et ainsi de suite. Donc ils peuvent aussi communiquer plutôt que de dire, ah ben viens, j'ai un problème sur le chantier, l'autre va faire 50 km avec sa voiture pour venir régler le problème, repartir. Maintenant, il y a des outils malgré tout qui permettent d'activer des solutions en direct. Par contre, il faut que le niveau monte.
Ça fait partie de notre stratégie hein, dans formation d'intégrer la numérisation et la pratique de l'informatique.
Alors, en plus, les plus jeunes sont quand même relativement doués hein, pour apprendre très très vite. Mais les responsables de chantier ne sont pas suffisamment formés. Alors, surtout quand on veut développer une entreprise. L'encadrement intermédiaire, s'il n'est pas formé, ça boite très rapidement. Très, très, très rapidement.
Parce qu'elle est souvent appris par la pratique, en fait.
C'est ça.
C'est ça hein. Ce qu'on apprend en 20 ans d'expérience, c'est ça qui est difficile de tirer le fil à transmettre. C'est toute la complexité de monter des formations, justement.
C'est l'intérêt des dispositifs comme l'AFEST, l'apprentissage justement en milieu de travail ou le contrat de pro expérimental qui permet justement aux entreprises en étant accompagnées à déterminer justement ce savoir-faire si précieux à faire ressortir et à transmettre en fait. Voilà. Donc il y a des dispositifs qui existent.
Tout existe. Il y a toutes les solutions. Tout existe. Il y a des titres professionnels de chef d'équipe. Il y a des modules de 150 heures de chef d'équipe. Alors souvent, quand on fait des modules de chef d'équipe, c'est sur le gros œuvre. On croirait vraiment qu'il y a dans le gros œuvre où il n'y a que des chefs d'équipe. Alors que je pense que ces formations-là pourraient être ouvertes à tous les métiers. On n'est pas sur la technique, on est sur la gestion de chantier.
On arrive au terme de notre table ronde. Donc on va remercier d'abord tous nos invités. Frédéric Gillet pour la CAPEB. Nous avions Sophie Bouix et Jérôme Doll pour le service bâtiment du Greta. Et Jonathan Lachise pour l'ALEC. Merci à vous quatre d'avoir participé.
Merci.
Nous rappelons à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver les différentes structures, les intervenants qui ont discuté pendant cette petite heure ici au sein du Forum des métiers de la transition écologique avec bien d'autres partenaires, bien d'autres structures. On rappelle qu'il y a des offres aussi d'emploi, il y a un espace, voilà, job dating au cœur du forum, et qu'il y a des conférences, et puis de nombreux exposants pour pouvoir vous informer, vous donner pourquoi pas des pistes, des tuyaux, que ce soit sur les métiers du BTP ou bien d'autres métiers liés à la transition écologique. C'est ça la grande thématique de ce forum qui a lieu depuis hier et encore aujourd'hui jusqu'en fin d'après-midi, 17h, entre 17h et 18h, organisé, on le rappelle, par Grenoble Alpes Métropole. Merci à tous les quatre.
Merci.
Bonne continuation dans le cadre de ce forum et au plaisir de vous recroiser sur l'antenne de News FM. On va repartir en musique, petite pause musicale, et puis on enchaînera avec un nouveau plateau, de nouveaux invités. C'est toujours sur News FM. À tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.